Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 15 juillet 2014, en direct du studio 13 à Washington DC, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Morgane et bon retour.
Au sommaire ce soir, un sous-officier français tué dans le nord Mali par un kamikaze.
Centrafrique, la société civile ne participera pas au forum de Brazzaville qui s'ouvre demain.
Ici en Centrafrique, nous n'avions pas été convaincus des mobiles du forum de Brazzaville.
Gervais Lacosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile à Bangui.
En Côte d'Ivoire, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo au bord de l'éclatement.
Les dirigeants et militants du Front populaire ivoirien ne parlent pas le même langage après le réaménagement technique opéré par le président Pascal Affingessan.
Reportage à suivre de notre correspondant à Abidjan.
Un attentat fait 38 morts et 80 blessés en Afghanistan.
Israël reprend ses frappes aériennes sur la bande de Gaza. Un civil israélien a été tué dans une attaque à la roquette.
Sans oublier bien sûr les sports et la musique en fin d'émission.
Pour l'instant, le journal.
Nous ouvrons au Mali où un sous-officier français a été tué par un kamikaze dans le nord du pays à quelques 100 km de la ville de Gao où se trouve une base de l'armée française. Le point avec Boubacar Touré.
Le légionnaire français de 45 ans participait à une opération de reconnaissance dans la localité d'El Moustraf, c'est dans le cercle de Bouremna. Un véhicule 4x4 qui suivait certainement la mission parvient finalement à s'approcher du convoi militaire et à une dizaine de mètres, il explose faisant un mort et 6 blessés dans les rangs des soldats français. Il faut le rappeler que la mission de l'armée française est sortie de la ville de Gao seulement le dimanche dernier. C'est bien dans cette même zone d'El Moustraf que le MAA et le MNLA se sont affrontés la semaine dernière. Ainsi, le 9e soldat français vient d'être tué au Mali depuis que l'opération Serval a été lancée en janvier 2013. Tout l'escouade donc que la menace djihadiste est bien présente dans les régions nord du pays. Gao, Boubacar Touré pour la Voix de l'Amérique.
En République centrafricaine, alors que le prochain forum de Brazzaville continue de diviser, le ministre des Mines et de l'Énergie a été limogé. Olivier Malibangar a été relevé hier de ses fonctions par la présidente Catherine Samba-Panza. On fait le point avec Idriss Fall.
Le forum de Brazzaville continue de diviser à Bangui. La société civile a annoncé qu'elle ne va pas y participer. Gervais Lacosso, coordinateur du groupe de travail de la société civile.
Nous n'avions pas été convaincus des mobiles du forum de Brazzaville. Aujourd'hui, la vision de la majorité des Centrafricains, c'est que même ce dialogue préparatif-là doit se tenir ici, chez nous.
L'association des 49 partis politiques et plateformes religieuses n'ont pas pu donner une position claire à l'issue de leur réunion ce mardi. Les anti-Balaka et les membres de l'Observatoire pour la promotion de l'état de droit sont partants car estiment que Brazzaville est une dernière chance pour sortir de la crise. Et le décret portant limogeage d'Olivier Malibangar a été rendu public aujourd'hui. Le texte signé par la présidente Catherine Samba-Panza précise que l'intérim au ministère des Mines et de l'Énergie sera assuré par le premier ministre André Zapayeke.
Au Cameroun, des militants présumés de Boko Haram ont enlevé 2 adolescents, les enfants de l'un des plus influents chefs spirituels musulmans du pays. L'enlèvement a eu lieu dans la ville de Limani, à la frontière avec l'état de Borno au Nigeria. Jean-Roger Bion.
10 hommes lourdement armés venus du Nigeria voisin, selon la radio nationale, ont fouillé la maison de Bishop Mouaman, le chef traditionnel de Limani. En son absence, les assaillants sont repartis avec ses 2 fils. C'est le premier cas d'enlèvement de Camerounais par le groupe islamiste nigérian. Selon des témoins, c'est parce que l'imam avait refusé de coopérer avec les islamistes nigérians. Boko Haram a déjà enlevé 10 ingénieurs chinois, 7 touristes français et 3 missionnaires catholiques en plus de 200 lycéennes nigérianes.
Sachez aussi que dans le nord-est du Nigeria, la police annonce l'arrestation d'un commandant de Boko Haram dans la forêt de Balmo. Âgé de 30 ans, Mohamed Zakari, surnommé le boucher en chef, aurait été capturé dans l'état de Bauchi lors d'un assaut contre un camp du groupe islamiste. Plus de 2000 civils ont été tués cette année au Nigeria par Boko Haram. C'est du moins le bilan annoncé aujourd'hui par Human Rights Watch.
En Somalie, deux islamistes ont été fusillés en public aujourd'hui à Mogadiscio. C'est ce qu'a constaté l'agence France Presse. Membres présumés d'Al-Shabaab, ils avaient été condamnés à mort pour le meurtre d'une étudiante en avril.
Nouveau naufrage dans la Méditerranée. 12 migrants ont été sauvés et encore a été repêché. C'est ce qu'a annoncé la marine militaire italienne, citée par l'AFP. On ignore le nombre de personnes qui étaient à bord de l'embarcation de fortune. On ne connaît pas non plus leur pays d'origine. Au total, plus de 1500 migrants ont été secourus dans le canal de Sicile au cours des trois derniers jours.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Afghanistan, un attentat suicide dans un marché local a fait au moins 38 morts et 80 blessés dans la province de Paktika, Lionel Gaïma.
L'assaillant a fait exploser son véhicule piégé dans un marché à Urgun, près de la frontière avec le Pakistan. Mohamed Razak Karouti, chef du district, a dit qu'il ne savait pas quelle était la cible, mais la forte explosion a endommagé des dizaines de commerces et des habitations. Le bilan provisoire est d'au moins 38 morts, mais pourrait être revisé à la hausse. En cette période de Ramadan, le marché était bondé et il y a plusieurs dizaines de blessés, dont les femmes et les enfants. Certains ont été amenés à l'hôpital et d'autres ont été traités à même le sol. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais semble porter la marque des talibans qui ont fait des attentats suicides leur arme favorite.
Au Pakistan, environ 1 million de personnes ont été déplacées à cause de l'offensive de l'armée contre les militants talibans dans le Waziristan Nord. L'information a été communiquée par des responsables pakistanais, notamment le ministre fédéral Abdul Qadir, qui supervise les opérations de secours dans la zone. Selon l'armée, plus de 440 militants et 25 soldats ont été tués depuis le début de cette offensive il y a un mois.
Escalade de la violence au Proche-Orient, un civil israélien a été tué aujourd'hui par un tir de roquette. C'est ce qu'indique l'armée citée par l'agence France-Presse. L'incident s'est produit au passage de Eretz entre Israël et Gaza. Cet homme de 38 ans est la première victime israélienne en 8 jours de conflit entre l'État hébreu et le Hamas palestinien. Israël affirme avoir repris ses frappes aériennes. L'État hébreu avait accepté une proposition égyptienne de cesser le feu qui a été rejetée par le Hamas. Bagassikoura.
Oui, l'armée égyptienne a déclaré ce mardi que ses troupes ont observé une trêve de 6 heures avant de riposter aux militants du Hamas qui ont tiré environ 50 roquettes. Israël affirme que son système de défense antimissile en a intercepté plusieurs. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, a déclaré à son homologue italien que son pays a le droit de se défendre. Le secrétaire d'État américain John Kerry a regretté que le Hamas ait refusé d'accepter la trêve. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu affirme que son pays est prêt à étendre sa campagne dans la bande de Gaza si le Hamas continue de refuser le cessez-le-feu.
Merci Bagassi. Salim al-Joubouri a été élu président du Parlement irakien. Une élection qui ouvre enfin la voie à la formation d'un gouvernement. On fait le point avec Michel Joseph.
Salim al-Joubouri se présentait sur une liste indépendante. Les députés irakiens l'ont élu pour occuper le perchoir réservé à un sunnite. Les députés doivent maintenant élire le président de la République qui désignera ensuite le premier ministre. Selon une règle non écrite, la présidence de la République revient à un kurde et le poste de premier ministre à un chiite. Mais Nouri al-Maliki, le très critiqué premier ministre sortant, dont le bloc est arrivé en tête des législatives du 30 avril, a déjà prévenu qu'il n'entend pas céder la place. Sur le terrain, après la débandade des forces irakiennes, les djihadistes de l'État islamique contrôlent une bonne partie du pays.
Le secrétaire d'État américain John Kerry revient à Washington après ses entretiens à Vienne avec son homologue iranien Mohammad Javad Zarif. Les deux hommes ont discuté de la prochaine étape dans les pourparlers sur le nucléaire iranien. M. Zarif souhaite la poursuite des négociations au-delà de la date butoir du 20 juillet, au cas où Téhéran et le groupe 5+1 ne parviendraient pas à trouver un accord définitif. Certains diplomates proches des négociations pensent toutefois qu'un accord est toujours possible dans les 5 prochains jours. Pour John Kerry, il ne fait aucun doute que l'Iran a droit à un programme nucléaire pacifique.
La tension augmente entre Kiev et Moscou alors que se poursuivent les opérations de l'armée ukrainienne contre les séparatistes pro-russes. Un général ukrainien qui est secrétaire adjoint du Conseil national de défense et de sécurité a déclaré à la télévision que son pays est en passe d'être victime d'une agression massive de la Russie. Moscou a invité des diplomates de 18 pays à visiter une ville frontalière où des bombardements de l'armée ukrainienne auraient fait un mort dimanche. Le Kremlin envisagerait des représailles selon un journal russe, mais l'information a été démentie par le porte-parole du président Vladimir Poutine.
Les dirigeants des deux nations les plus peuplées du monde, l'Inde et la Chine, se sont rencontrés ce mardi pour discuter, entre autres, du commerce bilatéral et d'un vieux contentieux territorial. Narendra Modi et Xi Jinping ont échangé pendant 80 minutes, tout de suite après leur arrivée à Fortaleza, au Brésil, pour le sommet du BRICS. Les échanges commerciaux entre les deux pays devraient atteindre 100 milliards de dollars d'ici l'an prochain. Et remaniement ministériel en Grande-Bretagne.
Le secrétaire au Foreign Office, William Hague, démissionne et est remplacé par le secrétaire à la Défense, Philip Hammond. D'autres changements devaient être annoncés ce mardi, notamment l'entrée de plusieurs femmes au cabinet. Le Premier ministre David Cameron est critiqué pour avoir formé un gouvernement dominé par des hommes. Voilà pour le journal Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique, au micro Morgane Diriec et Chérubin Dorsil. Tout de suite, la partie magazine de notre émission. En Guinée, les partis politiques et la société civile ont réagi à la publication des rapports d'audit.
Il faut dire que les documents rendus publics par le comité d'audit et de surveillance des secteurs stratégiques de l'économie accusent certains anciens hauts cadres de l'État de malversation et non-respect des procédures. On écoute Zakaria Camara.
Première réaction, celle de Seluda Ndiallo de l'UFDG. La formation du chef de file de l'opposition se réjouit de la publication des conclusions des audits. Ce rapport démontre clairement que Seluda Ndiallo est au-dessus de tout soupçon dans tous les dossiers où son nom avait souvent été cité, a annoncé le parti du finaliste de la dernière présidentielle en Guinée. Et quand on demande à ses proches, le langage reste le même. Aliou Kondé, député UFDG.
Le seul avion qui existait, c'était l'avion présidentiel. Comment celle-là seule, à l'insu de tout le monde, peut vendre cet avion? Vous regardez sur la partie financière, vous ne verrez nullement le nom de celle-là dans Air Guinée. Donc la simple signature est là. Il a obéi un acte, il y a un décret du chef de l'État qui dissout la compagnie. Alors comment vous pouvez condamner le ministre des Transports d'avoir appliqué un décret présidentiel?
Seluda Ndiallo est cité dans le dossier de cession du Boeing de la compagnie Air Guinée. D'autres personnalités politiques sont également accusées dans d'autres rapports. C'est le cas par exemple de l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté. Le président du PDN serait mêlé à une affaire d'intrants payés mais non livrée dans le cadre de la relance de la filière coton. Pour son parti, il s'agit d'un rapport incompréhensible. François Bourneau, porte-parole du parti.
Le gouvernement avait engagé un procès sur le dossier du projet coton. Il y a eu un premier jugement qui a été fait. Il y a eu des coupables qui avaient été identifiés à travers ce premier procès. Ils ont interjecté appel. Il y a eu un jugement qui a été rendu en appel. On a condamné des personnes que tous les Guinéens savent. Même une virgule, le nom, n'est-ce pas, du président Lansana Kouyaté n'a pas été cité dans ce dossier.
Autre réaction, celle du Conseil national des organisations de la société civile de Guinée. Si le CNOC semble apprécier la publication des rapports d'audit, il entend jouer pleinement son rôle. Dansa Kourouma, président de l'organisation.
Nous apprécions que les audits soient réalisés et que les résultats de ces audits soient connus par la population, mais aussi par les parties concernées. La société civile veillera à ce que cette publication ne soit assimilée à un quelconque règlement de compte politique.
Le comité d'audit et de surveillance des secteurs stratégiques de l'économie, créé en 2009, enquête sur 16 dossiers. 5 rapports sont publiés, ils portent sur le fonds coïtien, la cession des actifs d'Air Guinée, les intrants du projet Coton, le chemin de fer de Guinée et les licenciés de Guinomar. Les autres rapports sont attendus par les Guinéens. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en Guinée, à Conakry, sur Sabari FM, Soleil FM, Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Radio Milo FM à Cancan et Sigiri, Radio Liberté FM à Nzérékoré et Radio Bolivar FM à Mamou.
Nous nous rendons maintenant en Côte d'Ivoire. Le réaménagement technique du secrétariat général du Front populaire ivoirien, le FPI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, cause problème.
Le parti est au bord de l'éclatement. Une conférence de presse co-animée par l'ancien secrétaire général Laurent Akoun et deux membres de l'ancien bureau a eu lieu ce mardi pour marquer leur désapprobation. Voici le reportage de notre correspondant à Abidjan, Germaine Dri.
Les dirigeants et militants du Front populaire ivoirien ne parlent pas le même langage après le réaménagement technique opéré par le président Pascal Afingessan. Les membres de l'ancien bureau ont, au cours d'une conférence de presse, rejeté ce nouveau format. Un bureau que l'ancien secrétaire général Laurent Akoun n'apprécie pas sa conception.
Il s'agit d'un nouveau secrétariat général sans l'avis de l'organe de décision qu'est le comité central. Cette mise en place unilatérale par un seul individu, fut-il président du parti, cette mise en place-là nous choque. Nous rejetons, marquons notre désaccord par rapport à ce réaménagement comme une décision qui est contraire à l'esprit et à la lettre des textes, contraire aux pratiques en vigueur au FPI. Plusieurs cadres, plusieurs militantes et militants ont exprimé ça et là leur désaccord, mais mieux, ils refusent de siéger dans ce nouveau format du secrétariat général. Ce document est nul et de nul effet.
Pour Alphonse Doiti, ancien vice-président, le parti doit grandir conformément à la volonté de ses créateurs. Par contre, ceux qui ne peuvent pas respecter sa ligne doivent prendre leurs responsabilités.
Ceux qui ont créé le Front populaire ivoirien ne l'ont pas créé pour qu'il implose. Le FPI ne disparaîtra pas. Tous les jours que Dieu fera, le FPI ira en grandissant. Le FPI sera renforcé dans sa lutte. Mais c'est celui qui croit que la ligne qu'il défend n'est pas celle du FPI ou que la ligne majoritaire du FPI ne lui convient pas, c'est cette personne-là qui doit prendre ses responsabilités.
Tant que les éléments définis depuis l'arrestation des pionniers du parti ne figurent pas à l'agenda, on peut affirmer qu'on est hors sujet. Tapé Kipré, membre du comité central.
Il s'agit du principe. Quand tu changes de façon unilatérale un secrétariat général pour le remplacer tout seul par un autre secrétariat général, tu veux défendre quelle autre ligne? Tu veux défendre quoi d'autre que libérer Gbagbo, libérer Simon, libérer...
Quant aux nouveaux dirigeants, ils ont décidé de rester silencieux jusqu'à nouvel ordre. Le nouveau secrétaire général du FPI se nomme Agnès Monet. Germaine Dri, Abidjan, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud vont créer leurs banques et fonds de réserve. Signal d'indépendance face à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, Gabi.
Les dirigeants de ces puissances émergentes, des BRICS, devraient concrétiser ce projet lors de leur sommet de deux jours qui débute aujourd'hui à Fortaleza au Brésil, ou qui a débuté à Fortaleza au Brésil, Michel Joseph.
La présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a promis de poser la première pierre d'une nouvelle banque de développement et d'un accord sur les réserves monétaires. Lors de ce sommet, tous les deux vont naître, a-t-elle affirmé. La nouvelle banque, qui vise à financer les travaux d'infrastructure, commencera avec un capital initial de 50 milliards de dollars, soit une contribution de 10 milliards par chacun des 5 pays, pour aider à combattre la pauvreté dans les pays en développement. Selon l'agence Reuters, cette banque devrait faire son premier prêt en 2016. Quant aux réserves monétaires, la Chine fournira à cette alternative au FMI 41 milliards, le Brésil, l'Inde et la Russie 18 milliards et l'Afrique du Sud 5 milliards. Il s'agit là d'une sécurité en cas de crise monétaire, sans passer par le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. Le FMI a été souvent critiqué par ses conditions d'aide aux pays en développement, notamment les réformes internes qu'il réclame et qui sont jugées trop coûteuses. D'aucuns accusent aussi le Congrès américain d'être réticent à fournir des fonds supplémentaires pour aider les pays pauvres à travers le monde. Dans un entretien à l'agence russe Itartas, le président russe Vladimir Poutine a fustigé la lenteur déraisonnable de la réforme du FMI visant à accroître leurs droits de vote. M. Poutine espère aussi rallier ses partenaires dans sa croisade pour un nouveau monde multipolaire. Ensemble, nous devrions penser à un système de mesures qui empêcherait le harcèlement de pays en désaccord avec les décisions des États-Unis et leurs alliés, a-t-il soutenu. Plusieurs dirigeants sud-américains, souvent prompts à dénoncer la domination de Washington, ont aussi été invités à se joindre à la réunion des émergents. Shanghai, Moscou, New Delhi et Johannesburg se seraient proposés pour être le siège de la nouvelle banque. Les BRICS représentent 40% de la population et le cinquième du PIB de la planète. Selon l'analyste Marcos Troyo de la prestigieuse université américaine Columbia, citée par l'AFP, ce nouveau système n'est pas dessiné pour concurrencer les institutions traditionnelles, mais a pour but de jouer un rôle complémentaire aux institutions basées à Washington. Marcos Troyo y voit l'occasion pour les BRICS de démontrer leur capacité à construire.
Dans le dialogue des religions de ce mercredi 16 juillet 2014, comment la diaspora musulmane africaine observe-t-elle le Ramadan aux États-Unis? Nous aurons deux mères de famille comme invités. Envoyez-nous vos commentaires et numéros de téléphone sur Facebook et rendez-vous ce mercredi à 19h TU dans le dialogue des religions sur la Voix de l'Amérique.
Perturbation dans la distribution d'eau à Dakar. Depuis vendredi, les robinets sont à sec ou coulent timidement dans la capitale sénégalaise, Morgan.
Oui, la SDE, la société en charge de la distribution d'eau, explique cette situation par des travaux à l'usine Cœur Momar Sarr. Pour le moment, les populations sont obligées de faire des pieds et des mains pour trouver le précieux liquide, d'autant qu'on est en plein mois de Ramadan et qu'il fait très chaud. Dienaba Seydouba.
Les robinets coulent timidement. Les bassines peinent à être remplies et les populations terriblement désemparées ou simplement fâchés. Depuis samedi, beaucoup de quartiers de la capitale sont privés d'eau. La Société des eaux du Sénégal explique cette pénurie par des travaux entrepris à Cœur Momar Sarr, l'usine d'eau située à Louga. La SDE a mis à la disposition des populations des camions-citernes comme alternative. Et dans certains quartiers comme la Médina, certaines populations se rabattent sur les robinets à pompe, même si l'eau est impropre à la consommation. Ce père de famille est venu prêter main forte à son épouse qui cherche le liquide précieux. Son nom, Oumar Sarr.
On a un problème d'eau, tout le monde sait qu'on est en train de vivre. Donc, si vous voyez un père de famille se présenter pour chercher de l'eau, vous savez donc. Difficilement.
Depuis quelques jours, la dame Fatima Sow, la soixantaine dépassée, a le sommeil perturbé. Une situation désagréable, surtout en cette période de Ramadan.
On se lève tôt, préparer les barils et les bassines et les remplir très tôt. Bon, la baril, on avait ça il y a longtemps quand même. Les bassines aussi, c'était pour le linge et on ne fait que sortir, les ressortir et immerger quand même, c'est ça.
La pénurie d'eau qui sévit depuis 4 jours à Dakar n'est pas une première. En septembre 2013, la capitale est restée pendant 15 jours sans une goutte d'eau. Une situation qui commence à irriter sérieusement les populations. Dienaba Seydouba, Dakar, pour la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, Roger Muntou, ici la Voix de l'Amérique. Retrouvez-moi dans Washington Forum ce jeudi 18 juillet 2014 à 19h, temps universel. Nous parlerons des échecs et des réussites des artistes africains de la diaspora. Restez branchés.
Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Chez Ruben Orsil et Morgane Guiriac en votre compagnie. Et on fait quoi maintenant, Morgane?
Place à notre page sport avec Bagessi Koura. Bagessi, on vous écoute.
Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Chirubin et Morgan.
Accueil de héros, Bagessi, on peut dire, pour les champions du monde, l'Allemagne, à Berlin.
Oui, des centaines de milliers de fans ont acclamé ce mardi à Berlin les héros de la Nationalmannschaft qui ont remporté au Brésil le 4e titre de champion du monde pour l'Allemagne. Nous sommes tous champions du monde, a lancé le sélectionneur Joachim Löw depuis une grande estrade installée à la porte de Brandenburg face à une marée humaine qui a hurlé sa joie dans un grand moment de communion pour fêter le premier titre mondial depuis la réunification du pays en 1990. Le capitaine de l'équipe Philippe Lam a brandi le trophée de la Coupe du Monde devant la foule en délire. Plus de 250 000 personnes, certaines ayant passé la nuit sur place pour être sûres d'être bien placées, étaient rassemblées dans l'aire réservée aux supporters le long de l'avenue d'1,2 km, l'avenue donc du 17 juin, en face du célèbre monument berlinois. Heureusement que ce n'est pas l'hiver, hein, cher Roubaix.
Oui, heureusement, Bagassi. On continue encore à parler du Ballon d'Or du Mondial 2014 qui a été octroyé à Lionel Andrés Messi.
J'aime la façon dont tu insistes sur le mot « octroyé ». Donc après Sepp Blatter, le patron de la FIFA, qui dit qu'il n'a pas compris le choix de Lionel Messi, c'est au tour chérubin de Diego Maradona lui-même de parler du coup de marketing orchestré par Adidas, partenaire du trophée.
Et dire que Maradona est aussi argentin.
Et fan de Messi, hein, vous savez, quand il était sélectionneur au dernier mondial, il avait construit et bâti son équipe autour de Lionel Messi. Et voici ce qu'il dit, hein. Il dit « Messi, je lui donnerais le ciel si je le pouvais. » Mais ce n'est pas juste lorsque quelqu'un remporte un prix qu'il n'aurait pas dû gagner simplement à cause d'un plan marketing.
Alors, le mondial, c'est fini. Les étrangers repartent satisfaits chez eux?
Oui, la majorité des étrangers qui se sont rendus au Brésil pour le mondial 2014 ont été séduits par l'organisation et l'hospitalité des Brésiliens, tout en se plaignant des prix élevés. Selon une étude publiée ce mardi, l'organisation du mondial a été très bonne. Selon 83% des étrangers consultés pour cette étude effectuée par l'Institut Datafolha, cité par l'AFP, seuls 3% chérubins ont jugé l'organisation très mauvaise. 12% l'ont trouvé moyenne.
Et Datafolha est très respecté, on le sait. Et puis Bagassi, il faut dire aussi que le Mondial a remporté beaucoup de succès au niveau de la télévision. J'ai vu un sondage aujourd'hui où on dit que, par exemple, aux États-Unis, c'est la première fois que des gens ont assisté
grand nombre, c'est un record.
En aussi grand nombre, à une finale, surtout le dernier match du Mondial entre l'Argentine et l'Allemagne. Parlons d'autre chose, la mort de la première championne olympique noire.
Oui, il s'agit de l'Américaine Alice Cushman Davis, couronnée en saut en hauteur aux Jeux olympiques de Londres en 1948. Elle est décédée à l'âge de 90 ans des suites d'une attaque cérébrale en Géorgie où elle était née et avait été exposée à la ségrégation raciale. Championne des États-Unis du saut en hauteur dès l'âge de 16 ans, elle a remporté 25 titres nationaux tout au long de sa carrière, la plupart dans cette discipline, mais aussi en sprint sur 100 mètres en 1942, 1945 et 46. Voilà, c'est tout pour ce journal des sports, cher Roubaix.
Merci. Et comme chaque soir, on va se quitter en musique avec Roger Montou. Roger, qu'est-ce que tu nous réserves ce soir?
Salut Gabi, salut Morgane. Les artistes norvégiens Nico Evans ont débuté leur carrière à Oslo en 2009. Leur chanson Am I Wrong est quatrième dans le Billboard American Top 10 Music.
Just 'cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong?
Voilà, ainsi s'achève le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était Joselle Morissin à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, Morgane Guériec et Chérubin Dorcil au micro. À demain.